personnellement, mais bon, visiblement, c'est quelqu'un qui veut faire avancer les choses. Et là, il s'est engagé sur un truc phénoménal. Mmh. A priori, il est extrêmement suivi. Ouais, t'as tout à fait raison. Et voilà, voilà ce qu'il faut faire. Il faut aider effectivement ces populations. Il faut aider ces pays-là à se développer de façon à ce que le niveau soit voilà, que ce soit rattrapé et que sur place dans ces pays-là, on ne laisse pas la place justement à ces extrêmes-là.
Ouais, Jean-Louis Borloo, hein, c'est lui dont on parlait.
Ouais,
je crois
bien
qu'on
ne
l'a pas cité.
Lui, ouais.
Voilà.
Oui.
Patrick, on va écouter un extrait de ton album live, hein, tout simplement. Ouais. L'album de Purple Blues, enregistré cette année. Hein, c'est enregistré dans un endroit dans lequel tu produis souvent.
Ben, on se produit assez souvent et j'y organise tous les 15 jours des scènes ouvertes.
Ah, je ne savais pas ça, d'accord. Ouais.
Voilà, donc tous les 15 jours depuis maintenant 2 mois. Pour faire vivre un petit peu la musique live, effectivement, dans la région, là, et ça fonctionne très bien. Et le lendemain des attentats, on a fait salle pleine, et on avait une quinzaine d'artistes qui étaient là et qui sont venus se présenter. Bah, d'ailleurs, les gens peuvent aller voir, effectivement, il y a un truc sur Facebook qui s'appelle Les Mardis du Lombard, tout attaché.
Voilà, et ça s'appelle Lombardzik Café.
Hein, Lombardzik Café.
Lombardzikue. C'est un endroit qui t'appartient ou qui appartient à un de tes amis,
le café ? Pas du tout, c'est à 4 km de chez moi.
D'accord.
C'est les copains qui tiennent ça.
Ok,
et,
ok.
Et ben voilà.
Et on va écouter. Ouais, pardon, vas-y.
Oui, vas-y.
Là, je disais, on va écouter un extrait de cet album. Je voulais te remercier d'avoir participé à cette émission. Peut-être que tu as des. Pour donner envie aux gens, peut-être d'en savoir plus et de faire écouter hein, ce que fait Purple Blues, le site internet.
www.purpleblues.fr.
purpleblues.fr, d'accord, très bien.
Voilà, écoute, il y a les vidéos et le live que tu vas passer là, et surtout les vidéos de cette soirée là.
Très bien. Merci Patrick d'avoir participé à cette émission. On va écouter un titre, une reprise de Calvin Russell qui s'appelle Soldier. Je sais pas si c'est vraiment très bien choisi, mais bon, tu me dis hein.
Bah si, je vais t'expliquer très brièvement pourquoi. C'est que le morceau démarre. En fait, Calvin, dans ce morceau-là, dit je suis un soldat, mais je n'ai pas besoin de. Enfin, je ne me réclame d'aucun pays, et je n'ai pas besoin de drapeau pour dire qui je suis. Donc, c'est tout à fait d'actualité.
Calvin Russell, rest in peace, Calvin Russell. Merci, Patrick. À bientôt sur la route du blues.
Merci, Marc. Au revoir.
Just a person. I don't claim no country. I just don't need a flag to see who I am. Where I come from, my mama, like you and your brother. War is ours. It's all in your hands. I'm just a soldier fighting the sorrow, holding my head about. One thing I know, one thing you see. change we're going. But in your whole mind, you can always be free. I'm just a soldier fighting the sorrow, holding my head abide, one leg still borrow. If not today, if not today, if not today, maybe tomorrow.
Purple Blues en live à Lambersic, ça se trouve par là-bas en Dordogne. Avec du monde bien sûr en live. Purple Blues, merci encore à Patrick Sid d'être intervenu dans l'émission. On est en train d'évoquer ce vendredi 13 novembre qui a endeuillé toute la France et puis le monde entier, je pense. Il n'y a pas eu la marche qu'on a vue juste après Charlie, mais il y a eu un autre élan. Et puis je pense qu'il y a certains dirigeants, il y en aura des dizaines et des dizaines à partir de ce week-end. Vous savez que c'est la COP21 qui vont être présents. Je pense qu'il va se passer encore un tas de choses sur Paris. Je suis au téléphone avec Zabou de l'Espace Concert. Salut, tu vas bien?
Ça va, oui.
Bon. Alors, on en parlait l'autre jour, justement, sur ce fameux réseau social dont qu'évoquaient Patrick et Mantenman, à savoir Facebook, par l'intermédiaire duquel on s'envoie nos plans pour aller voir tel ou tel artiste en concert, machin, que ce soit à Caen, au Souboc, à Coville, voilà. Et puis on s'est dit, pourquoi pas parler, évoquer ce qui a pu se passer. Je voulais savoir d'abord ta réaction. Tu étais où, à quel endroit et avec qui quand tu as appris?
Nous, on était au concert de Toas au Portobello.
Oui.
Et c'est grâce à Facebook, au fur et à mesure que les gens voyaient ce qui se passait. Donc, effectivement, c'est super flippant. La réaction des gens, en fait, après le moment vraiment d'horreur, c'est bizarre parce que, tu vois, on a été en deuil national, etc. Oui. Et en fait, moi, quand je suis retournée au boulot le lundi matin, tout le monde a commencé à parler boulot, en fait, sans vraiment s'arrêter sur tous les événements. D'accord. Du week-end. Et là, c'est vraiment bizarre comme réaction.
C'est pas passé, ça, ce genre de choses, tu t'y attendais pas.
Non, pour moi, à partir du moment où on se retrouve au boulot tous, où les clients qui arrivent, c'est quand même un truc terrible qui s'est passé le week-end. Mmh. Et c'est des réactions bizarres, je pense pas, peut-être qu'à Paris c'est différent, mais là, se retrouver en province, les gens continuent leur vie, en fait, c'est vraiment bizarre.
Tu parles de province, notre région, tu es sur Caen?
Oui, moi je travaille sur Le Havre, donc là en fait c'était vraiment les réactions des gens. Pour eux, c'était passé à Paris, c'était terrible, mais ils n'en parlaient pas au café en arrivant le lundi matin, quoi.
Tu penses qu'on a acquis une certaine distance, que ce soit avec les kilomètres ou avec les écrans,
oui,
par rapport à un événement comme ça?
Oui, c'est vraiment ce que je ressens.
Qu'est-ce que donc, ça t'inspire comme constat?
Je suis un peu dépitée parce qu'en fait, ce sont des êtres humains en général, qu'ils soient à Paris ou dans une petite ville.
Et par exemple, le fait qu'il y a eu, encore un massacre tout récemment au Kenya, il y a eu plus de 140 tués dans un lieu d'éducation, ça non plus, on n'en parle pas dans les grands médias par contre, ou alors c'est évoqué
non,
en fin de journal par exemple
Bah, quand tu vois sur Facebook, tu vois que justement les certaines personnes disent mais attendez, il n'y a pas que chez nous quoi, il y en a partout,
oui.
Partout. Et c'est pour ça que j'ai eu autant de mal avec cette histoire de drapeau.
Voilà, alors pour toi, le drapeau, c'est quoi ? Hier, il fallait mettre son drapeau à la fenêtre. Tu l'as fait déjà, toi ? Ou...
Non, non, du tout. Mm. Non, non, pour moi, non.
C'est pas
non,
un service non. commandé pour toi, le fait de
non, d'arborer déjà, un drapeau. Je veux pas qu'on me dise tel jour, faut le mettre,
oui,
déjà.
Oui.
La seule chose qui est positive dans tout ça, c'est comme on disait tout à l'heure, le fait que le drapeau français puisse être mis sans que ce soit forcément... récupéré par le fait d'être au FN, etc.
Oui,
donc,
oui.
Là, ça, c'est bien. C'est la seule chose de positive pour moi, c'est qu'enfin, on a parlé du drapeau français sans que ce soit lié à la politique.
Non. Bon.
Mais sinon, non, je veux dire, non, il n'y a pas que les Français qui sont morts. Il y en a partout dans le monde à cause de cet état-là. Donc, faut arrêter. Il n'y a pas que la France, quoi.
Alors, effectivement, c'est un phénomène mondial. On l'évoquait tout à l'heure avec Matt et puis avec Patrick aussi. Ouais. Il se passe des choses, malheureusement, un petit peu partout. Plus c'est près, plus on a l'impression qu'on va trembler encore plus. Ouais. Et tant que ça ne se passe pas juste près de chez toi, tu as l'impression que les gens ne bougent pas plus que ça, quoi.
Oui, c'est bizarre. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas encore vraiment conscience que ça peut arriver n'importe où. Ils peuvent aller faire leurs courses pour Noël et puis ça peut arriver. Tant que tous ces gens-là sont toujours dans cet état-là.
Ouais. Est-ce que ça tient au fait aussi que, après Charlie Hebdo, après le Bataclan, etc., on se dit finalement, c'est la région parisienne qui trinque à chaque fois. Nous, ici en province, on ne craint rien. Tu penses qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a une impunité
oui.
des provinciaux, ouais. entre guillemets.
Peut-être, oui.
C'est fou ça quand même, je ne sais pas.
C'est... Ouais. Donc voilà, hein, j'espère pas qu'il y aura des événements qui feront faire le contraire. Mais...
Alors, par rapport à l'expression musicale, c'est un groupe de rock qui a été visé. Bon, bien sûr, le public, malheureusement, qui était en train de l'applaudir ce soir-là, plus de 1500 personnes. Ça, personnellement, ça te touche parce que je crois que c'est aussi une de tes activités.
Ah oui,
plus que principale, peut-être.
Hein. C'est sûr que moi, avec ma page Facebook, de toute façon, c'est que de l'annonce de concert.
Ouais.
J'y suis tous les week-ends, donc oui, effectivement, là, ce qui m'a fait répondre dans votre émission, en fait, c'est le fait que je devais aller le 5 décembre à la soirée tribute au Cargo,
oui.
avec mon filleul.
Bah d'ailleurs, ça a toujours lieu, puis je crois que tu as de le mettre en couverture de ton
espace. Bien sûr, et au contraire, il faut absolument y aller, et il faut que ça soit plein, et il faut montrer que, bien sûr, qu'on continue à aller au concert, même si c'est des grosses salles, etc. Et tu vois, le problème, moi, c'est que mon filleul, j'avais prévu de l'emmener parce qu'il voulait absolument voir Riff Raff.
Oui.
Sincèrement, je pensais que on allait continuer à faire le programme qu'on avait prévu, sauf que voilà, le gamin, il est quand même choqué par tout ce qui s'est passé et il recule sur le fait de venir à un concert, donc je vais pas venir avec.
Et bien sûr, dans ce cas-là.
Parce que voilà, et c'est là que je me suis rendu compte à quel point, par contre, les jeunes pouvaient être vraiment traumatisé par ça.
D'accord.
Pour lui, le fait d'aller à un concert là, maintenant, c'est pas possible.
C'est trop tôt.
Dangereux.
C'est trop
dangereux.
Ouais.
Voilà. Donc ça craint, parce que ça veut dire qu'on est dans une époque où, avec Internet, ils peuvent avoir accès à énormément de culture. Et d'un autre côté, avec avec cet état-là qui fout la merde partout dans le monde, on est en train de dire non, faut pas se rassembler pour aller écouter de la musique, ça craint. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Ça peut pas continuer comme ça.
Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Qu'ils aient peur.
Qu'est-ce qu'il faut faire, Zabou ? À notre petit niveau, organisateur de concerts, et puis
continuer à sortir, continuer à organiser. Tu vois, je viens d'avoir un appel pour Moriav qui me dit que le showcase de cet après-midi est annulé. Tous les showcases sont annulés. Elle devait aller jouer sur Kerkeville, je crois, autour de la ville. Bon, non, si toutes les boîtes commencent à dire on annule tous les concerts parce que ça craint, on fait quoi ? Il n'y a plus de concerts dans 6 mois. Faut arrêter.
Ouais, tu parlais, on parlait tout à l'heure avec, avec Patrick hein, d'un concert qu'il avait organisé par chez lui là-bas dès le 14 novembre. Je sais pas si tu as l'occasion d'entendre ça.
Oui.
Où c'était blindé. Il y avait une quinzaine de musiciens de la région qui s'étaient joints pour comme ça spontanément venir participer, monter sur scène, taper le bœuf. C'est pas le genre de buzz que tu ressens dans notre région.
Non, pas tellement.
Non, la solidarité entre musiciens, le fait de jouer malgré tout, non, c'est pas ça.
Bah, j'ai vraiment l'impression, vu de ma fenêtre à moi,
oui,
qu'en fait, tout le monde continue sa vie. Voilà, il n'y a rien eu de spécial. Personne ne s'est dit, bah tiens, on se retrouve tous à un endroit et on vient faire une putain de soirée où tous les groupes passent à la suite et on fait... Non, il n'y a pas eu ça. Chacun a continué à aller où il devait aller, quoi, je veux dire. Donc, non.
Bon, en même temps, si le besoin s'en est pas fait sentir, c'est vrai que chacun avait peut-être ses engagements à droite à gauche. Il y a d'autres moyens aussi de se retrouver. Il y a des rassemblements dans les rues, malgré que ce soit interdit hein, ces jours-ci, notamment du côté de la région parisienne. Voilà, c'est un petit peu liberticide aussi tout ça. Comment est-ce qu'on peut d'un côté combattre des terroristes qui eux-mêmes sont contre toute forme de liberté d'expression et en même temps, au nom de ça, interdire toute liberté d'expression en ce moment quoi. La sécurité, la liberté, deux mots finalement qui vont pas toujours bien avec l'autre. Où est-ce qu'il faudrait mettre le curseur finalement pour toi, Zabou?
Bah, en fait, ce qui se passe maintenant, enfin, on a l'impression que ça y est, il bouge vraiment. Enfin, tout ce qui est en train d'être fait en ce moment aurait dû être fait déjà beaucoup plus tôt.
Oui, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus.
Ouais. Bah oui, enfin, on entend les reportages avec les juges antiterroristes et tout ça qui expliquent que ça fait des années, qu'il y a des choses qui auraient pu être mises en place. Mmh. On se dit, mais putain, le temps qu'ils ont tous perdu, quoi.
Et on va continuer à en perdre.
Quels que soient les gouvernements, d'ailleurs.
Oui, on va continuer à en perdre parce qu'on repart dans la guerre là-bas en Syrie, les bombardements. C'est peut-être pas forcément la solution. Enfin, je sais pas si mes deux interlocuteurs de tout à l'heure n'étaient pas d'accord. Toi, qu'est-ce que tu en penses, œil pour œil, dent pour dent ou pas?
Non, parce que pour moi, mais c'est absolument pas une histoire de vengeance. C'est qu'on est en train, enfin, de commencer à réaliser qu'il faut une coalition pour aller... Je crois qu'il y a 30 000 personnes qui sont concernées par cet État-là.
Oui.
On l'a laissé grossir complètement. Enfin, quand on voit les reportages et qu'on voit qu'ils vendent le pétrole et le coton qui est racheté par la Turquie, qui est revendu dans les autres pays, enfin, je veux dire, nous, on achète des t-shirts, on a peut-être du coton qui est vendu par Daesh, enfin, c'est un truc de fou. C'est que ça a arrangé tout le monde depuis des années.
Oui, alors ça n'a pas été dit clairement jusque-là, mais je te suis tout à fait, il y a un travail là-dessus quand même. Hein.
Le
pétrole, comment est-ce qu'on arrive à faire 2 millions de chiffres d'affaires, c'est le cas de Daesh, et ils s'en cachent pas eux-mêmes, sans vendre du pétrole sous le manteau aux Occidentaux, c'est pas possible.
Ils ont tout le fric qu'ils veulent.
Et comment se fait-il que le gasoil était à 1,50 il y a encore 18 mois, un an, et que maintenant il est à 1,06? Bon, il va remonter certes, mais ça sera de l'effet de l'État. Tout simplement parce qu'il y a plus de pétrole sur le marché. Ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est pas seulement avec les gaz de schiste américains ou canadiens que la différence s'est faite. À mon sens, voilà, il y a une théorie là-dessus. Bon, après, je donne un avis tout à fait perso, mais il y a forcément des intérêts économiques. Il y a aussi des États, alors qu'ils sont accusés de subventionner ce terrorisme-là. Je ne sais pas quel est ton point de vue, ton sentiment là-dessus.
Bah là, en fait, on se rend compte que même si c'est eux qui revendent sous le manteau à pas cher dans le pays d'à côté, de toute façon, ça, c'est revendu à d'autres pays. Et en fait, c'est tout ça, puis ça arrive en Europe. Enfin, c'est pas possible. C'est ce que disait tout à l'heure... si c'est Patrick, quoi, je disais ça. Ça fait des années que tout le monde sait que ça se fait.
Oui.
Il n'y a rien de fait. C'est que tout le monde a un intérêt. Les pays avaient un intérêt à laisser faire jusque-là. Mais il y a longtemps qu'ils auraient fait le nécessaire. On se dit, c'est pas possible.
Ouais, je te suis tout à fait là-dessus, Zabou. Musicalement parlant, voilà, pas forcément beaucoup de d'allant, beaucoup de suivi à la suite de ça, mais je pense que
non.
Quand même, il y a des choses à faire. Tu connais des groupes, personnellement, tu es ami avec pas mal de musiciens, que ce soit de la région ou pas. Tu serais prête, toi, à prendre en charge l'organisation d'un truc, que ce soit dans une grande salle ou autre? Ça t'intéresserait de participer à ça?
Bah, bien sûr, ouais. Oui. Mais c'est vrai que ça aurait été fait à chaud, ça aurait été sympa, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Mais bon. Voilà. Bon, là, voilà, le principal déjà, c'est que qu'on arrête que des concerts soient pas annulés comme ça, systématiquement,
oui,
par la peur, quoi. Et puis, donc c'est pour ça, là, rendez-vous la semaine prochaine, et puis voilà, tous au cargo, voilà. Et c'est du rock, et oui.
Alors, Tribute 7, on va en parler rapidement, c'est pas forcément le titre qui va suivre d'ailleurs, mais on peut dire, ce sont des tributes, ça fait donc la 7e fois que ça se produit, c'est sous la houlette, j'allais dire, de l'ami Rému, hein, c'est ça ?
Oui.
De Riff Raff, et à chaque fois, Rému, c'est vrai, qui a donc Riff Raff, Tribute to ACDC, et puis d'autres bands que je te laisse peut-être nous présenter, si tu as envie.
En fait, là, on a le Empty Space.
Pour Pink Floyd.
Du Pink Floyd, ouais. Ouais. No Class qui reprend du
Motorhead, ouais.
Et puis on a un tribute à Jimi Hendrix, donc moi personnellement je l'ai découvert. Et le titre est là.
Ouais, on t'entend pas très très bien au téléphone là, du coup je sais pas si t'as dû bouger. We Are Experience, voilà, je rectifie, ouais. Pour le tribute à Jimi Hendrix, et puis c'est parrainé par un ex-trust, monsieur Nono Krief, c'est ça?
Oui, exactement.
Et la participation
Rontal.
Rontal
en vidéo
qu'on a vu ensemble il y a pas si longtemps, lors d'une tournée, autour de la guitare,
ouais,
un truc complètement ouf.
Très très bien.
Samedi 5 décembre à partir de 20h au cargo à Caen, venez nombreux, j'ai envie de dire.
Ben oui, faut montrer que.
Pour illustrer tout ça, Zabou, tu n'as pas choisi ni un titre de Pink Floyd, ni d'ACDC, ni de Motorhead, ni de Jimi Hendrix, mais un petit peu de la même période quand même, parce que c'est un titre qui est sorti il y a une bonne trentaine d'années, que je te laisse nous présenter, Zabou.
En fait, c'est le titre de Moriette, Seinitsu, parce que quand je suis allée la première fois à un concert ado, donc justement vers les 13-14 ans, pour aller voir mon cousin qui était batteur. C'est un morceau que j'avais vraiment aimé quand le groupe l'avait fait. Et justement, j'ai appris énormément de choses au niveau musique avec ce cousin-là. Et je me dis qu'à l'époque, on avait 14-15 ans, on commençait à aller voir des concerts et on n'avait pas peur, quoi. C'est la grosse différence avec maintenant. Et ça me perturbe de savoir qu'un gamin de 14 ans puisse dire non, je veux pas aller écouter de la musique parce que ça craint.
Ouais, voilà. Je pense que c'est... Oui, espérons que ce soit transitoire, de toute façon, cette réaction tout à fait normale et à chaud, mais transitoire, j'espère, quand même.
Voilà, c'est ça.
Merci, Zabou, d'être intervenu dans Sweet Home Chicago aujourd'hui. On va écouter un titre pas blues, mais c'est pareil, c'est un truc que j'écoutais... j'avais peut-être pas 13-14 ans, j'avais peut-être plutôt 18-19, mais... Voilà, Saïd Enso, je me souviens d'avoir vu Muriel, c'était au début des années 80, au Parc Expo à Caen, voilà, c'était la grande flamboyance de Muriel à l'époque. Merci Zabou, à très bientôt.
D'accord, merci. Au revoir. That's not what I wanna hear, Joanna. Got a right to know. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. I'm sure they're telling us lies, Joe, please. Tell us it ain't so. They told us that our hero, the lady's drunk girl, he doesn't know how to go on. They're clinging to his charm and determined smile, but the good old days have gone. The image and the info may be falling apart. The money has gotten scarce. One man's word held the country together, but the truth is getting fierce.
merci à Zabou de nous permettre d'écouter Murray Head dans Sweet Home Chicago. Je crois que depuis que l'émission existe, puis depuis que je fais de la radio d'ailleurs, ça remonte à, allez, 83. Je me souviens pas avoir passé ce titre-là après 83, 84, justement, à l'époque où l'émission c'était blues, rock, pop, voilà. Et ben voilà, Murray Head, c'est Hill and So, tube incontournable, bien sûr. Un petit tour du côté de Facebook avec l'ami Pedro qui nous met, et je pense que c'est assez, assez judicieux comme remarque, il nous met, j'en suis à me demander si un de ces connards aurait réussi à faire péter dans le Stade de France ce qu'il avait apporté. Est-ce que les matchs de foot auraient été annulés aussi? Le championnat continue, la Champions League aussi. Alors pourquoi annuler ces concerts? C'est naze. Effectivement, je suis au téléphone avec Paul Solas, artiste français, parisien, c'est ça Paul? Salut Paul.
Salut Marc. Bonjour à tous.
Première intervention dans Sweet Home Chicago d'ailleurs, et ce sera tout à l'heure la toute première fois qu'on diffuse ta musique. Je sais pas pourquoi on a traîné tant, enfin où j'ai traîné, c'est ma très grande faute. Ça fait un bon moment qu'on entend parler de toi. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es musicalement? Tu joues avec qui? Tu te produis où?
alors moi je travaille actuellement sur un projet d'album.
Oui.
Qui sera un mélange de blues, de folk et de c'est un peu de musique électronique, mais c'est difficile d'en parler comme ça, et de musique acoustique aussi. Là, ce que je t'ai envoyé, c'est un trio blues que j'avais monté il y a 3 ans.
D'accord.
Un enregistrement live. Voilà, donc je suis en train de travailler beaucoup, surtout sur mes chansons, mon projet, puis à côté de ça, j'accompagne des gens, je fais beaucoup de concerts, voilà, à droite, à gauche, et beaucoup de guitare.
Donc tu es réclamé pour ta guitare, pour ta dextérité sur la six-corde, et en plus tu as tes projets perso, c'est bien ça pour résumer.
C'est ça, exactement.
Est-ce que tu peux nous dire en quelques instants, puisque je pense que tu as écouté les interventions précédentes avec Zabou, avec Patrick, avec Matt peut-être aussi, quelle était ta première réaction quand tu as pris cette tragédie le 13 novembre dernier?
Alors, comme tout le monde, terriblement choqué. Il faut savoir que moi, ce groupe-là, les Eagles of Death Metal, c'est un groupe que j'aime beaucoup, que je suis depuis des années.
On les a pas encore cités dans l'émission d'ailleurs, tu fais bien.
Ouais, et que j'ai vu au Bataclan il y a 2 ans. Donc je connais très bien la salle, pour y avoir joué, pour avoir vu des concerts et pour avoir vu le concert de ce groupe-là.
Ouais, ouais.
Donc j'imagine très bien et je vois très bien l'audience, le public qu'il y avait ce soir-là dans la salle. Donc ma première réaction, c'était très très choqué. Et puis c'est surtout le contre-coup, parce que moi j'ai perdu 2 amis là-bas, dont mon luthier qui s'occupait de mes dobros, qui avait 31 ans, qui s'appelait Romain. Et puis j'ai un copain qui s'en est sorti, qui était un ancien batteur de mon groupe de rock, qui s'appelait Solas, qui lui est resté coincé 2h30 dans les loges avec le bassiste du groupe, des Eagles of Death Metal. Donc faut savoir que au-delà de l'aspect national du drame, ils ont quand même touché une communauté de personnes qui étaient très attachées au rock, à certains quartiers, à une manière de vivre, à un style de musique. Il y a beaucoup de gens de mon entourage, d'amis dans mon entourage, qui sont touchés par cette tragédie directement, quoi. Voilà.
D'accord, ça nous éclaire beaucoup sur ce qui a pu se passer. Est-ce que tu penses que la musique que distille le groupe, rien que le nom de qu'avait choisi ce groupe pour se produire, un groupe américain, rappelons-le, est-ce que tu penses que c'était un hasard ou c'était vraiment ça qu'on tentait de viser?
Non, je pense que dans leur folie, ce sont des gens intelligents.
Oui.
Et qu'ils ont ciblé un groupe et une communauté de personnes qui étaient très libres et qui représentaient le rock'n'roll. Parce que c'est pas un grand groupe comme les Rolling Stones. Disons que c'est un peu second degré. Ils font du rock'n'roll, mais c'est très sympa, quoi. C'est très rigolo.
Il y a beaucoup d'autodérision aussi dans ce qu'ils font.
Voilà, c'est ça. Donc je pense qu'ils ont voulu toucher sciemment une manière de vivre qui est légère, qui est heureuse et qui est libre, quoi.
De la même manière qu'ils ont essayé de toucher et malheureusement touché les personnes qui se trouvaient sur les terrasses simplement profiter d'un vendredi soir à Paris.
Bien sûr.
Et peut-être que ça aurait pu être même pire du côté du Stade de France où était d'ailleurs présent notre président de la République. Voilà, on imagine mal.
Non, non. Hein.
L'intervention de Pedro là, qui disait tout à l'heure sur Facebook par rapport au Stade de France, c'est vrai que les dégâts ont été relativement limités, hein, pesant nos mots bien sûr, mais s'il y avait eu des morts à l'intérieur du stade, est-ce que le monde du football aurait réagi de la même façon?
Voilà. Mais je pense que malheureusement oui, c'est ce qui s'est passé pour le monde de la musique. Bon là ça repart, j'avoue que à Paris les gens ressortent. Moi je suis allé hier au Bataclan me recueillir, j'ai pas pu y aller depuis deux semaines parce que c'est pas évident. Il y a beaucoup de gens dans la rue, il y a beaucoup de gens sur les terrasses, il y a beaucoup de gens qui sont là, il y a vraiment autre chose hein, quand même.
C'est quoi l'atmosphère? On discute entre inconnus, on s'apostrophe, on se parle?
Les gens se regardent énormément.
Oui.
Les gens se regardent beaucoup, les gens sont quand même très touchés, très affectés. Et puis plane, une joie de vivre, une forme d'insouciance un peu. C'est vrai que moi je suis sorti hier dans un bar rock qui s'appelle La Féline. Les gens dansent, les gens rigolent, les gens passent, enfin essaient de vivre et de passer à autre chose, mais c'est vraiment différent quoi.
Les gens ont besoin de s'éclater, de s'amuser bien sûr.
Oui.
Et en même temps, tu sens une ambiance particulière depuis 15 jours sur Paris alors.
Ah oui, il y a quand même. Moi, je prends le métro tous les jours. Je connais très bien Paris. Je vois les gens un climat qui est lourd, quoi. Alors, donc, il y a des gens qui sont très, très affectés. Je vois des gens pleurer dans le métro. Je vois. Il y a des gens qui rient aussi, hein. Faut pas être trop négatif. Mais les gens sont très touchés, ouais.
Est-ce que tu penses, comme certains, Paul, qu'il y a un danger maintenant à être présent, tout simplement, autour d'un événement culturel, musical, à se rassembler, à être un public devant un concert, par exemple?
Alors, honnêtement, oui. Très honnêtement. Et ensuite, moi, ça m'empêchera pas d'y aller. Voilà. Donc je pense que c'est la majeure partie des gens sont d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on continue à vivre, mais par contre, il y a un vrai danger, évidemment. Ce qui arrive, c'est exceptionnel. Je veux dire, c'est des kamikazes, des gens qui tirent à l'arme de guerre dans Paris sur des terrasses. Enfin bon, c'est du jamais vu, quoi.
Est-ce que tu penses que, malgré toutes les précautions qui sont prises, malgré tous les soldats qui sont arrivés, les policiers en renfort sur Paris, et notamment avec la COP21 qui arrive dès demain, le danger reste le même ou ça serait vraiment
Écoute,
pas de chance, quoi?
Marc, je vais te dire honnêtement, je vois pas beaucoup de policiers et de militaires dans les rues à Paris.
Qu'on nous dit dans les infos. Hein.
Non. Voilà. Non, moi, tu vois, dans le métro, même sur les grandes stations, Champs-Élysées, etc., j'en vois pas, quasiment pas. Je pense qu'ils sont concentrés sur des lieux touristiques ou des musées ou des
oui, des lieux stratégiques, bien sûr.
Voilà, exactement. Donc, pas tant que ça. Faut bien comprendre que je suis certain de ce que je dis, que les forces de l'ordre par l'État, comme nous les Français, on est dépassés par les événements. Mmh. C'est pas anodin. Enfin, c'est pas quelque chose qui peut se prévoir comme ça. C'est pas déjà Charlie Hebdo, ça a été terrible. Là, c'est encore un cran au-dessus. Donc non, c'est pas. Moi, je vois pas. Je pense que on peut pas mettre des policiers partout. Enfin, c'est pas possible.
Donc, mais on peut pas mettre des policiers partout, bien sûr. Mais il faut continuer à vivre. Ça va s'estomper, comme ça l'a fait après le 7 janvier. L'ambiance dans les rues, voilà, au fil des semaines, au fil des mois. Tu penses que vraiment le quotidien va reprendre le dessus, ou est-ce qu'il y aura quelque chose de changé de façon inéluctable?
Je pense que s'il y a les deux, je pense que les gens continuent à vivre. Moi, je suis dans un quartier, je suis à Pigalle. Donc les gens sortent, les gens font leurs courses, c'est familial, ça continue. Mais je vois dans les gens quand même beaucoup plus de traumatisme qu'après l'après Charlie, quoi. L'après Charlie, les gens étaient dans la rue, etc. Ça a assez vite retombé parce que la vie prend le dessus, c'est comme ça. Faut pas en vouloir aux gens non plus.
Ouais.
Mais là, non, c'est différent. Là, il y a quand même. Là, c'est lourd.
À titre personnel, Paul Solas, à titre personnel, qu'est-ce que tu penses de la réponse du gouvernement à l'attaque que la France a subie, notamment ces bombardements sur Raqqa en Syrie qui s'en sont suivis presque dans les 48 heures?
Je pense que y a deux choses. Je pense que c'est symbolique. Donc oui, effectivement, symboliquement, la France se doit de réagir. Après, concrètement, je pense pas que ça fasse avancer les choses, honnêtement. Je pense que c'est tellement un nœud entre l'argent, le pétrole, le terrorisme, les ventes d'armes, c'est pas aussi simple que ça. Donc on peut faire des frappes, même si elles sont chirurgicales, mais faut bien savoir que Daesh, ils ont un territoire très très étendu, de l'Irak à la Syrie, à la Libye, enfin c'est...
Et puis ils agissent un petit peu partout dans le monde. On évoquait voilà. tout à l'heure le Mali notamment, la Tunisie, on n'en a pas parlé, mais il s'est passé quelque chose en Tunisie très très récemment, avec je crois une douzaine de victimes. Ce sont des gens qui sont très mobiles, qui ont beaucoup d'argent grâce au pétrole notamment, qui bénéficient quand même d'intérêts, entre autres grâce aux pays occidentaux qu'ils prétendent combattre. C'est le serpent qui se mord la queue en fait.
Complètement. Et puis il y a autre chose, c'est que ce que je veux dire, c'est que c'est un sentiment très très inconfortable et très malsain de vivre dans un sentiment de guerre. Moi, de savoir que on va faire la guerre à des gens et que les gens font la guerre et que c'est très bizarre, quoi. Je veux dire, nous, on n'a pas été élevés dans ce genre de climat. On n'est pas habitués à ça.
Ben, je pense que c'est plutôt de la génération de nos parents, plutôt de nos grands-parents.
Voilà. Ouais.
Voilà. On entendait souvent certains anciens, alors là je vais te livrer une phrase qu'on entend parfois en province, qui dit « Bon, les jeunes maintenant, il leur faudrait une bonne guerre. » Est-ce que... Non mais je t'assure que ça s'entend encore par les anciens, par chez nous. On y est quand même un peu là, je veux dire. C'est plus comme en 91 où on allait péter de bombes au Koweït et on revenait. C'est plus
la même chose. On allait à la télé, tranquille, et puis ouais, bon voilà, non. Moi j'ai des enfants en bas âge, je sais que eux ils vont grandir dans un monde qui sera tendu. Ils sont déjà dedans, donc... Ils savent qu'il y a eu des événements, ils savent que moi je vois beaucoup d'enfants se recueillir hier au Bataclan, il y avait des familles avec des enfants qui allumaient des bougies, etc. Donc tout ça c'est pas anodin, c'est très grave dans une société, dans un monde libre d'élever des enfants avec l'idée qu'on peut se faire tuer, qu'il y a eu des morts, que c'est du concret. On est plus, comme tu disais, sur les frappes. Sur Fox TV, sur les frappes en Irak, quoi.
Matt, tout à l'heure, en début d'émission, évoquait l'éducation comme réponse, pas forcément immédiate, bien sûr, à une menace, une menace directe, mais comme solution de fond, j'allais dire. Est-ce que tu préconises la même chose? Est-ce que tu penses à d'autres solutions?
Alors, déjà, je voudrais quand même dire un truc, c'est que moi, à Paris, ou en banlieue, que je connais bien, j'ai travaillé avec des rappeurs, je connais très bien la banlieue, ce sont des gens... on va dire à 95%, 98%, beaucoup mieux éduqués et beaucoup plus corrects que certaines personnes dans certains arrondissements de Paris. C'est des gens très ouverts, c'est des gens très respectueux, c'est des gens qui aiment la France. Et je parle des jeunes aussi. Moi, hier, sur le quai du métro, là, quand je sortais hier soir, il y avait quatre nanas d'origine, je pense, marocaine, algérienne. Elles avaient tout un ballon blanc, bleu et rouge. Et ça m'a fait, c'est vachement beau, quoi. Je veux dire, et c'est des jeunes, hein. C'est pas, et on le voit même, par expérience, faut arrêter de stigmatiser, etc. Et c'est des gens qui sont pas éduqués ou l'éducation. Parmi les gens qu'on rejoint Daesh, il y a des gens qui ont fait des études, il y a des gens qui sont issus de bonnes familles. Hein. C'est pas que des que des anciens voyous.
Alors l'éducation, c'était pas forcément dans le sens l'éducation contre une non-éducation ou une mauvaise éducation, mais plutôt une éducation vers des valeurs un peu plus humanistes en fait.
Oui, ben, je pense qu'on on y tend, quoi. Je veux dire là quand on parle de la France, c'est on ressort les mots importants de la France, c'est-à-dire voilà la fraternité, la liberté. Donc je pense que après concrètement, est-ce qu'il faut plus de d'éducation civique, donner le sens, les valeurs de l'État aux jeunes, je pense, mais il faut savoir déjà qu'il y a beaucoup de travail qui est fait au sein des collèges, des lycées.
Et des
pour
écoles.
L'égalité des chances, quoi.
Et des écoles, Paul, aussi. Hein.
Et des écoles, oui, bien sûr. Donc, les gens, moi, c'est ce que je disais à des amis qui sont en province, qui voient ça d'un autre regard, notamment par rapport au vivre ensemble, à l'immigration. Il faut savoir qu'ici, tout le monde vit ensemble. Et je veux dire, déjà, on n'a pas le choix. Donc, et deuxièmement, c'est comme ça, je veux dire. C'est,
deuxièmement, ça se passe bien et ça se passe pas comme beaucoup de médias voudraient nous le faire croire. J'ai envie de dire, il y a quand même un prisme des médias qu'on peut avoir ici en province, qu'on n'a pas forcément, à moins de passer tous ces week-ends à Paris. On peut pas s'imprégner non plus de toutes les cultures, mais en même temps, savoir que sur place, ça se vit de façon harmonieuse et conviviale, c'est quand même plutôt rassurant, non?
Complètement, mais complètement. Enfin, c'est moi, je travaille beaucoup avec des gens qui sont arabes ou des juifs, ou je vais faire mes cours dans des épiceries, tout le monde en parle, tout le monde est choqué. Mmh. Hier, je suis rentré, le taxi m'a offert la course. Voilà, c'était un Algérien, il m'a offert la course parce qu'on a parlé des attentats, parce qu'on est tous... les gens parlent, quoi. Mmh. Faut pas du tout, faut vraiment sortir de y a des problèmes en France, on est d'accord, hein, je veux dire, bon, mais il faut... La grande majorité des gens, vivent ensemble et vivent bien ensemble.
Je veux dire, c'était important d'entendre ça, oui. Oui, tout à fait. Sur la convivialité, sur le vivre ensemble, Paul, on va recentrer la toute dernière partie de cette interview en direct, hein, rappelons-le, sur le 666, sur la musique principalement. Est-ce que, bon, tu l'as dit, tu es arrivé de rejouer déjà depuis le 13 novembre.
Oui.
Y a une différence dans la façon dont la musique est ressentie dans le public?
Ouais, complètement. Ouais.
Toi, en tant que guitariste sur scène, hein, c'est bien ça que...
Oui, complètement, ouais. Complètement. Je veux dire, nous, déjà, on est vivants, contrairement à d'autres. Donc, il y a une envie de jouer et une façon de jouer qui est complètement différente, quoi. Moi, je connais beaucoup de musiciens, tout le monde est au taquet, quoi. Tout le monde a envie d'y aller à fond, hein. Tout le monde a envie de rejouer, tout le monde a envie de faire des choses, tout le monde a envie de se retrouver, tout le monde a envie de s'exprimer comme si c'était le dernier soir, quoi.
Enfin, moi, c'est intéressant. On avait Matt Guillou des Mountain Men, on avait Patrick Sib de Purple Blues, on avait Zabou Espace Concert là sur Caen et Le Havre, mm-hmm. et puis toi, Paul Solas sur Paris. On a des avis qui convergent et puis d'autres sensibilités qui divergent parfois. Mais en tout cas, la perception de ce qu'on peut en avoir côté réception du public de la musique, réception par le public de la musique, voilà, c'est radicalement différent, quoi. Il y a des façons de vivre la musique, déjà bon, au niveau des styles bien sûr, mais selon l'endroit où on vit, on ne le vit pas de la même manière, j'ai envie de dire.
Mmh. Oui, non, mais bon, après c'est normal, mais je pense qu'il y a, une... après la claque, il y a quand même une soif de vivre, quoi. On continue à vivre et même si c'est dans la douleur, c'est avec beaucoup de, je trouve, de force et de... Et d'amour de la vie, quoi. Donc de l'amour de jouer, quoi. D'être là et de faire au maximum, d'avoir la chance d'être là et de pouvoir donner aux gens, quoi. Je veux dire, voilà, moi, on a été là, on a perdu une amie qui s'occupait beaucoup d'une communauté blues qui s'appelait Cri-Cri.
Oui, tout à fait.
On s'est retrouvé au Balajo lundi soir, c'était blindé, il y avait tous les musiciens.
J'ai aperçu quelques photos effectivement sur Facebook et puis deux trois commentaires qu'on a pu échanger avec notamment Stéphane Poterlo qui était présent aussi. Voilà, là encore, bon, je pense que ça n'a rien à voir, la disparition de Cri-Cri qui auront hommage et les événements de ce 13 novembre. Hein, il y a pas concomitance, mais il y a une émotion, hein, qui est palpable, oui, qui est réelle. C'est quelqu'un qui travaillait notamment sur Saint-Ouen à l'organisation de plein de concerts.
C'est ça. Voilà.
Cri-Cri Blues Cellier, à qui on peut rendre hommage ici au passage. J'avais l'occasion, pas de la connaître physiquement, mais au moins d'échanger un petit peu avec elle virtuellement. C'était quelqu'un qu'on sentait de très très passionné en tout cas.
Complètement. Bon voilà, c'est vrai que ça a été une succession de mauvaises nouvelles. Et moi je suis très proche de Stéphane Poterlo, on joue ensemble, on se connaît très bien.
Ouais.
Bon voilà, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, on est très très motivé pour continuer, quoi, voilà.
En tout cas, voilà, ça c'est ça peut-être le mot de la fin, Paul, motivé pour continuer, parce que pourquoi s'arrêter, même si la peur est là, et il faut pas céder au terrorisme, en fait, c'est ça le message. L'amour de la liberté, l'amour de la culture sont plus forts peut-être que le désir de sécurité totale.
Absolument.
Pour toi,
on avance tous ensemble. Voilà, il faut avancer, mais tous ensemble.
Merci Paul pour ta participation à cette émission.
C'est moi qui te remercie, Marc.
On va écouter un extrait, des deux titres que tu m'as envoyé. En fait, il est calé, le morceau. J'en ai calé l'un des deux. Je te laisse deviner lequel. Est-ce que c'est Going Away ou My Baby Is So Fat? Qu'est-ce que je vais mettre?
Je mettrai un petit boogie, moi.
Ouais. Going Away.
Ouais, et puis c'est mon pote Romain qui a fait la guitare sur laquelle je joue, qui est parti au Bataclan. Donc voilà, ce sera un bel hommage.
Très bien. Merci Paul Solas.
Je vous embrasse. Merci. Salut Marc.
À très bientôt.
Ciao.
Merci à Paul pour l'interview. Merci pour tout, à Zabou, à Paul, à Patrick, à Sib et à Matt Guillou, voilà, les Mountain Men, Purple Blues, Espace Concert, Paul Solas, tous ces gens qui ont accepté de témoigner juste 15 jours après ces tragiques événements du 13 novembre, comme on les connaît, qui ont marqué notamment le monde de la culture et de la musique, dont fait un tout petit peu partie l'émission Sweet Home Chicago, avec le blues et avec toutes les musiques qu'on peut y écouter. On est ensemble de 13h à 16h, c'est un samedi sur deux à cette horaire-là, et le samedi suivant, rediff de 13h à 15h, avec les deux premières heures donc, qui sont rediffusées. En troisième heure, il y aura vos dédicaces, elles sont accessibles comme d'habitude sur la page Facebook de Sweet Home Chicago. Et on va revenir tout de suite au disque du mois. Il s'agit bien sûr de Ngame and Smiling Blues de Roland Chakunte, non sans vous dire que juste après, je vais m'empresser de vous inonder de nouveautés, parce qu'il y a plein de choses qui sont arrivées dans la boîte aux lettres. Voici le titre Meden Dibou de Roland Chakunte, qu'on adore.
Madame Moyano, Madame Mebou. Madame Mebou, my baby. Madame Moyano, Madame Mebou. Femme Madame Mebou, my baby. My baby, I'm my yellow, madame, me boo. Follow me, madame, no, darling. When I'm good, boots on my boo. Me revendez nous, on me fout dans même voix. Me revendez nous, on me fout dans même voix. Madame, me boo, my darling. I'm my yellow, madame, me boo. Non, baby, vous l'emmenez, vous êtes ma peau. Me revendez-nous, vous me foutez dans même voix. Vous l'emmenez, vous me foutez dans même voix. Madame Bibou, ma darling. N'aime pas yalou, madame Bibou. Femme-vous, n'aime pas non, baby. Vous l'emmenez, vous êtes ma peau.
Jacunté, disque coup de cœur du mois de novembre pour Sweet Home Chicago. Le mois prochain, ce sera Monkey Junk, un groupe canadien qu'on a déjà découvert dans Sweet Home Chicago depuis plusieurs albums. Mais franchement, leur tout dernier est vraiment excellent. Je vous laisserai le découvrir par deux fois lors des deux émissions de décembre. Et puis là, je vous ai parlé d'une avalanche de nouveautés. Voici Mudcat tout de suite on the Atlanta Horns, son tout nouvel album While You Were Away avec Dive in the Fight. Mudcat, Danny Dudek. Hey!
Between the color and pages, Your form is sharp and mean. Love is contagious. Things that might have been flooded changes. Your life till now is fine. Now it rages. Never get enough love or liquor. You can lose, honey, but you cannot win her. You lost your halo in a bluff, you stumbling sinner. Played with love and now you burn your fingers.
Your voice is hey, hey, hey.